musique avec Serge Lacasse et Gérald Côté. Parlons musique.
Bonjour Gérald, comment tu vas?
Ben, je vais très bien. Je te souhaite un bon dimanche et un bon mercredi à ceux qui vont nous écouter un petit peu plus tard là, lors de la mise en ligne de l'émission, du podcast.
Yes, super. Écoute, Gérald, on a eu cette idée-là de partager en fait nos intérêts de recherche en commençant par toi aujourd'hui. Puis je pense que ça devrait, en tout cas, ça a de bonnes chances d'intéresser nos auditeurs sur les questions fondamentales qui nous torture en fait intellectuellement tous les deux. Peut-être de voir aussi en quoi ça peut consister la recherche en musique plus concrètement à travers nos propres projets, nos propres expériences et tout. Comme dans ton cas, les auditeurs le savent là, depuis quelque temps, tu es un ethnomusicologue et donc tu t'intéresses entre autres aux liens, aux rapports qu'entretiennent la musique et les diverses communautés que tu as visitées, incluant ici évidemment, mais aussi ailleurs dans le monde. Tu as fait beaucoup, beaucoup de voyages, tu voyages encore beaucoup. Tu as aussi des projets en cours, dont un livre là, sur les cultures musicales du monde. Puis, je pense, en tout cas, moi, j'aimerais beaucoup qu'on en parle puis que tu nous entretiennes un peu de ton expérience de recherche.
Grande partie de mon expérience est reliée avec des voyages. Mm-hmm. Et j'ai fait face, j'ai rencontré la diversité en personne. C'est quelque chose. On a une petite idée de ce que c'est la diversité. On a une petite idée, mais en réalité, on projette un concept de diversité. Parce que la diversité est beaucoup plus profonde qu'on peut se l'imaginer. Au niveau des valeurs, des fonctionnements, par exemple, dans le domaine du sacré, ben pour nous, le mariage est quelque chose qui est considéré comme étant un sacrement. Donc, s'il y a une valeur sacrée, on va à l'église pour obtenir la bénédiction du prêtre et tout ça. Alors que, par exemple, chez les Mosuo, ils ne vont pas se marier. Donc, on se trouve là dans une communauté ethnique au sud-ouest de la Chine, Mosuo, la pratique est très, très différente au niveau du mariage. En tout cas, il n'y a pas de mariage et il n'y a pas de cassure non plus. Lorsque ça fonctionne pas, on fait tout simplement se laisser comme ça. La jeune fille, à partir de 13 ans, elle a déjà sa chambre pour elle. Elle accueille ses amants. Et à un moment donné, il peut y en avoir un qui va durer plus longtemps et il peut durer toute sa vie, mais il peut durer 2 mois, puis il va en avoir un autre après. Et ça, c'est la norme et ça fait partie carrément d'un rituel chez les Sénoufos. Donc, ça me fait poser beaucoup de questions. Et bon, les musiques sont toujours pas très loin des rites, des rituels ou des cultures. En fait, c'est une des dimensions importantes. C'est l'âme, souvent, d'un peuple, la musique. Donc, tout ça, ça m'a chambardé. Là, on peut dire ça m'a changé mes visions, ma vue.
Est-ce qu'on pourrait dire que pour toi, la musique est un prétexte, en fait, pour aller justement questionner ces diverses habitudes, comportements, croyances-là que tu as rencontrées?
Oui, d'une certaine façon. Je te dirais que mon premier intérêt a passé par le blues. Le blues, c'était une musique, lorsqu'on s'identifiait au blues à la fin des années 60, que ce soit via Janis Joplin ou Roadhouse Blues de Jim Morrison, que ce soit via cette génération-là, c'était pour manifester notre marginalité. Pourquoi le blues était relié avec la marginalité? C'est parce que aux États-Unis, le peuple qui a porté le blues, le peuple qui a créé le blues avec des composites, il y a eu une identification évidemment qui s'est faite avec les Africains-Américains, et de s'identifier aux Africains-Américains à cette époque-là était une façon de manifester notre marginalité à nous. D'ailleurs, il y a un bouquin, là, je vais dire le mot en N, qui s'appelle « Nègre blanc d'Amérique » de Vallière, que j'ai pu rencontrer d'ailleurs, on a pu en discuter de façon plus personnelle. Et c'était son ressenti à cette époque-là d'être comme un rejet comme les Noirs ont pu le vivre aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, pas étonnant que le blues, on puisse avoir cette aura, cet espace social de marginalité. Et c'est ça qui m'a amené en Afrique, parce que bon, à un moment donné, je me suis dit, ça vient d'où finalement le blues? Donc là, il fallait que j'aille un peu plus loin que la frontière du Sud et que je me suis rendu compte que c'était en Afrique que ça partait. Et ça a été mon premier voyage.
Oui, puis en fait, ça donnait lieu aussi, est-ce que c'était ta thèse qui était sur le blues?
C'est la maîtrise.
C'est la maîtrise. Et donc, tu as fait un livre, il y a un livre qui est paru à ce sujet-là, le blues au Québec. Là.
Exactement, les 101 blues du Québec.
Voilà.
Donc là-dedans, je pense que je fais allusion à ma rencontre avec Pierre Vallière. Je pense que j'ai fait des remerciements. Effectivement, c'est ça qui m'a conduit, ça s'intéresse. On écoutait Jimmy Page, on écoutait les guitaristes qui étaient tous influencés par le rhythm and blues ou le blues. Bon, on fait des gros écarts de sémantique, de différence autour de ça, mais en réalité, c'est le même héritage dont la source primaire est le gospel, qui a été dérivé vers le blues, le rhythm and blues, parce que c'est électrifié, mais c'est les mêmes concepts. Et le rock and roll qui a été repris par un blanc, nommé Presley, et qui ne faisait qu'en réalité que du rhythm and blues, qui était très choquant pour les conservateurs américains à l'époque.
En tout cas, moi, je trouve que peut-être la vedette, la première vedette de rhythm and blues, qui faisait en fait vraiment du rock'n'roll, c'est pas dans les années 50, c'était dans les années 40, puis il s'appelle Louis Jordan.
Absolument.
Je trouvais que ça, c'était vraiment, mais premièrement, une forme blues, avec un petit orchestre derrière qui était comme une espèce de stage band miniature, c'est avec un représentant de chacun des vents, puis avec surtout la section rythmique, puis lui qui chantait et qui jouait du sax. Donc, c'est ça. Donc, on voit clairement l'influence du blues, puis ensuite sur Presley, puis Bill Haley, puis tous ces gens-là ensuite, qui ont été évidemment tout à fait influencés par... la seule différence, c'est qu'ils étaient de couleur blanche, là, c'est tout.
Mm-mm. On oublie aussi d'autres prédécesseurs comme Big Boy Crudup ou Big Mama Thornton qui ont fourni des pièces à Elvis Presley. Et d'ailleurs, et non, c'était pas la faute de Presley, c'est pas lui qui était le manager, là, qui était le gérant, mais ils n'ont jamais eu aucun droit, aucune monnaie, aucune ristourne pour leurs droits d'auteur, alors que ça a été vendu à des millions de copies, ces pièces-là. Donc, Big Mama Thornton, d'ailleurs, qui, à un moment donné, s'est retrouvée en Estrie. Et c'était une de ses plus grandes, je dirais, douleurs de s'être fait comme ça, voler, et qu'on avait fait de l'argent sur son dos avec sa pièce « Hound Dog ».
Ah oui, OK, Hound Dog, wow. Donc ça, c'était un blues finalement qui était...
C'était considéré du rhythm and blues à l'époque, mais tu vois, toi t'as mentionné tout à l'heure Louis Jordan. Oui. Mais tu sais, Louis Jordan, qu'est-ce qu'il faisait, Louis Jordan? Il faisait une réduction pour 4 à 5 musiciens. Au moment post-crise là, économique, et puis ça permettait de faire de la danse sans se payer un big band. Donc, c'est un swing, c'est de la musique swing réduite pour quelques musiciens. Et le swing, qui a parti le swing? Ben les vrais initiateurs étaient les Africains-Américains dans la région de Kansas, comme Count Basie, entre autres, et tout ça. Et ça a toujours été une espèce de mélange. Et puis, plus on était proche de la tradition surtout les jazzmen ont été formés dans les églises. L'église était un lieu d'apprentissage pour les Africains-Américains. Donc, tous ceux qui étaient proches de cela, ont évidemment construit leur concept musical, leurs idées musicales sur le gospel.
OK. Donc, cet intérêt-là pour le blues, pour le R&B, c'est ce qui t'a amené... En Afrique.
Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce je cherchais d'où est-ce que ça venait.
Qu'est-ce que tu as découvert?
Ben, j'ai découvert qu'il y avait un code génétique.
Okay.
Qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait retrouver derrière la surface esthétique changeante, là, que ce soit qu'on passe du style swing justement au R&B, parce que bon, évidemment, c'est pas la même orchestration, donc à nos oreilles, on a l'impression que c'est pas la même chose qui se passe, mais c'est la même chose. La même chose, cette espèce de squelette ou code génétique que j'appelle, qui était premièrement des superpositions de riffs. Donc, on commence sur des riffs. Un riff est une formule répétée, simple et qui nous permet d'improviser. C'est très difficile d'improviser sur une mélodie de Mozart qui va s'étendre sur 16 mesures. Mm-hmm. Alors que si le riff a deux ou trois notes, on a les riffs de, par exemple, du groupe Cream, vous avoir un riff à deux notes, là. Donc, c'est facile de parler là-dessus puis d'être spontané, beaucoup plus que sur une conception plus européenne où la mélodie est élaborée, développée, il peut y avoir des modulations, etc., etc. Donc, le riff et le cœur, si on peut dire, et parce que le riff permet justement la spontanéité, et dans la musique africaine, le concept est indissociable de la langue parlée. On parle par la musique, tu vois.
Oui, mais on l'avait entendu dans ce que tu nous as fait entendre dans l'épisode sur l'identité, là, la tante qui parle avec son neveu, puis qui le critique un peu, là. C'est ce qu'on avait bien entendu, là. Ouais.
Exactement. Donc, il y avait des petites formules qui sont répétées et qui nous permettent justement d'improviser. C'est ça que j'ai trouvé. Et ça, on le retrouve dans le rhythm and blues, on le retrouve dans le gospel, on le retrouve dans le swing, on le retrouve dans toutes les formes de jazz. Lorsque le jazz prend un chemin un peu plus européen, comme le jazz cool, le third stream, là, des styles qui arrivent à la fin des années 40, mais là, on prend un modèle plus européen. D'ailleurs, les Africains-Américains ont été exclus de cette musique-là. Ça se passait beaucoup, à un moment donné, sur la côte ouest, parce que il y avait l'industrie hollywoodienne qui attirait les musiciens. C'est une façon de gagner leur vie. Et il fallait que le musicien sache lire, parce que lorsqu'on fait de la musique pour du film, là, tu peux pas t'en aller n'importe où, n'importe comment. Donc, t'es beaucoup plus contrôlé au niveau des mesures, au niveau du temps, tu vois, la façon dont on organise
là,
le temps.
Là, on est dans les années 30 à peu près, là. Korn Gold, tous ces musiciens-là.
Fin des années 40, là, le grand mouvement vers Hollywood.
Okay.
D'ailleurs, les Africains-Américains appellent ça la musique de Mickey Mouse, parce que Walt Disney était de ce côté-là.
Mais là, si tu parles de jazz maintenant, ça me fait penser à un autre livre que tu as écrit, en fait, deux éditions en plus du même livre, là, le jazz vu de l'intérieur. Alors, on va mettre évidemment des liens là, pour nos auditeurs, pour ce dont on va parler. Donc, est-ce que dans ça aussi, j'imagine, tu revisites encore l'Afrique d'une certaine manière, mais aussi les États-Unis, évidemment, par le jazz? C'est quoi la différence, tu dirais, entre une question un peu là, simple, là, de mon point de vue, là, mais comment tu verrais la différence entre le blues et le jazz, justement?
Ben, en fait, là, j'ai parlé du code génétique qu'on va retrouver dans toutes les formes de jazz. Bon, l'Africain-Américain ne faisait pas de différence au début du siècle entre blues, jazz. Hein. Et ça faisait partie, si on peut dire, de leur patrimoine et tout ça. Puis tout était une espèce de dérivé du gospel. Donc toutes ces, je dirais, catégorisations proviennent de l'extérieur, ce qu'on peut dire, de la communauté des Africains-Américains. Même d'ailleurs, le mot jazz voulait dire baiser, voulait dire faire l'amour. Donc, tout ça, c'est venu par après, bon, avec les marchés. Hein, les marchés vont se construire, ils vont s'édifier, tout ça. Donc, évidemment, il y a une esthétique différente, même si le code génétique est le même. Et c'est sur l'esthétique, et cette esthétique-là est reliée avec des mouvements sociaux particuliers. Oui, avec des réalités sociales particulières.
Ça, c'est vraiment, en tout cas, ce que je comprends, c'est vraiment, en tout cas, l'un des sujets qui te passionne, là, ces liens-là entre les mouvements sociaux et tout ça, puis les tensions et tout. Tu sais, d'ailleurs, pourquoi tu as appelé ton livre « Jazz vu de l'intérieur »
Parce que c'est, par exemple, je vais donner quelques exemples. Si on prend les premiers jazz là, orchestrés, où il y avait de l'improvisation collective sur des riffs avec des instruments avant. Pourquoi des instruments avant? Ben, parce que les Africains américains avaient accès au surplus de l'armée qui arrivait tout cabossé là, après les guerres, toutes les guerres qu'il y a pu y avoir. Donc, on parle de la Nouvelle-Orléans, le port de la Nouvelle-Orléans. Oui. Donc, les Africains-Américains se retrouvent avec ces instruments-là. Eux avaient un peu plus de liberté, avec des gros guillemets, là, par rapport à leur musique, parce qu'on s'intéressait à leur musique d'un point de vue exotique. Donc, eux, ils ont intégré des instruments, mais ils ont amalgamer ça, si on peut dire, avec leur conception musicale. Donc, tout ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur du processus créatif. En réalité, j'aurais pu appeler ça processus créatif du jazz, processus créatif collectif du jazz. Mm-hmm. C'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est là que se font les mélanges et pour des raisons qui, de toute évidence, sont reliées avec des bulles sociales. Le mot bulle est à la fois dans la mode, c'est ainsi, on va l'utiliser.
OK, donc là, tu parles en fait du Dixieland, de Louis Oliver, qui a engagé en fait un petit inconnu qui s'appelait Louis Armstrong. Donc, c'est oui. Tout ce que Panassier, dont on peut-être un jour on parlera, mais a appelé le hot jazz. Donc, c'était le Dixieland vraiment avant l'arrivée du swing. Là. On est dans les années 10, 20... Pas mal ça, là, si
oui.
Je me trompe.
En fait, juste une petite mise au point. Dixie veut dire sud, donc terre du sud.
Okay.
Donc, on ne s'appelait pas nous-mêmes toute terre du sud, là, en guillemets. Mm-hmm. C'est que lorsque le jazz est arrivé plus au nord, qu'on appelait ça le Dixieland. Mais au tout début, c'est tout simplement le jazz de la Nouvelle-Orléans.
Le jazz, puis avec deux S d'ailleurs, plutôt que deux
oui,
Z au tout début.
Exactement.
Puis très paradoxalement, le premier enregistrement de jazz comme ça, c'était un orchestre de blancs comme par hasard, alors que en fait, oui. les Afro-Américains le faisaient avant, puis il y avait des, ben justement, Louis Oliver et compagnie, c'est surtout lui là, qui avait son band ou ses bandes là. Donc ça, c'est un autre signe, encore une fois, de, tu sais, dans l'industrie, ça devait être peu envisageable d'avoir un premier enregistrement d'un genre musical américain qui soit par des Afro-Américains, en tout cas, certainement à cette époque-là. Oui. C'est venu
et
plus
malheureusement,
tard.
C'est la couleur de peau qui fait la différence.
Ben oui.
Parce que l'original d'Excellent Jazzman, c'était pour la plupart des Italiens.
Mm-hmm.
Donc, eux-mêmes, des marginaux, des gens qui sont marginalisés. Donc, tu ne pouvais pas faire du jazz si tu n'étais pas dans la marge de la société.
Mm-hmm.
C'était quelque chose qui n'était pas soutenu sur le plan des valeurs souhaitées pour l'Amérique, le jazz. Donc, mais parce que c'était des blancs, comme Elvis Presley, qui était blanc, ben c'est la pilule passait mieux.
Oui, exactement. Mais ceci dit, est-ce que quelqu'un comme toi peut s'intéresser aussi à comment est relié, parce que ces musiciens-là qui étaient blancs, italiens, en tout cas des italo-américains, j'imagine qu'ils avaient leur propre histoire aussi, puis comment ils en sont venus à faire cette musique-là, puis est-ce qu'il y avait des liens avec les musiciens afro-américains?
Effectivement, mais ils devaient le garder assez discret. Peut-être la communauté qui a été le plus aidant en rapport avec la communauté afro-américaine, c'est la communauté juive.
Ouais.
La communauté juive s'est fortement identifiée aux Africains-Américains. Il y avait comme quelque chose de stratégique. D'ailleurs, c'est pas très étonnant que la plupart des grandes compagnies de films ont été fondées par des Juifs,
ouais.
Par les gens issus de la communauté juive, surtout qui viennent à peu près toutes de la même région de l'Est de l'Europe. Là.
Ouais.
Immigrants aux États-Unis. Donc, leur vision du monde était une vision d'intégration raciale, parce qu'eux-mêmes étant des immigrés.
Oui, puis en plus, des immigrés qui ont quitté, en tout cas, si on va au tournant là, à la fin du 19e siècle, qui quittent des politiques, des pays où la politique les attaque. Là. Donc, c'est arrivé en Russie, entre autres, puis dans
effectivement,
d'autres...
Effectivement, parler de Tsar, oui, les pogroms qui étaient des campagnes lancées, justement, contre les communautés juives, les scattles qu'on appelait.
Ouais.
Et puis donc, ces gens-là avaient en commun avec la communauté afro-américaine une chose. Ils étaient rejetés par leur société.
Voilà.
Donc, c'est pas étonnant que l'identification se fait et que, étant donné qu'ils étaient des immigrés rejetés, c'est pas eux qui avaient le haut du pavé au niveau du travail. Donc, ils ont occupé les jobs, entre guillemets, reliés au divertissement, l'entertainment. Mm-hmm. Donc, ils ont construit, comme tu sais, les grandes compagnies là, de production, bon, en musique en feuilles, disques et tout ça.
La SCAP, tout, là, ben oui.
Exactement, mm-hmm. Pour les droits d'auteur. Donc, c'est eux à eux qu'on doit ça, y compris incluant Hollywood. Et c'est pas étonnant aussi, bon, je reviens à l'idée qui était derrière tout ça, cette identification profonde avec la communauté afro-américaine. D'ailleurs, les plus riches, là, juifs, ils payaient les écoles pour les Africains-américains.
Mm-hmm. Alors, c'est fascinant ce sujet-là. Puis peu discuté, en fait. On n'en parle pas tant que ça de ces liens-là entre les communautés. Là. En tout cas, certainement pas dans la littérature francophone. Donc, revenons à l'Afrique pour voir, parce que là, je sais qu'un des pays qui t'intéresse beaucoup en Afrique, c'est le Mali. J'aimerais que tu me parles du Mali, mais aussi peut-être de d'autres régions aussi qui t'ont intéressé. Est-ce que c'est seulement l'Afrique de l'Ouest comme ça, ou si c'est vraiment d'autres territoires?
C'est souvent des circonstances. C'est des circonstances souvent qui m'y ont amené. Deux de mes voyages en Afrique étaient reliés avec des commandes que j'avais, donc un travail que j'avais de recherche avec un réalisateur et un autre réalisateur. En fait, c'était pour une série télévisée. Et l'autre, c'était pour un documentaire sur les esclaves à Gorée. Donc, bon... Mais au Mali aussi, la première fois que je suis allé, c'était pour faire des recherches sur la musique des Touaregs. Donc, je me suis retrouvé dans une organisation culturelle qui s'appelait Acte 7, qui existe toujours et qui a toujours le même directeur, là, Adama Traoré. Et donc, je suis allé là, vu que c'est une entité culturelle, c'est un espace culturel, pour aller chercher des contacts Grâce à eux, j'ai pu contacter des Touaregs, musiciens, avec lesquels je me suis attaché et je suis devenu ami. Donc, les gens du désert, mais le Mali est connecté avec le désert, donc il est proche.
Mais c'est ça, mais c'est qu'on, comme tu en as déjà parlé, on sépare l'Afrique en des pays, mais sur le terrain, c'est pas ça qui va faire que, tu sais, par exemple, le désert, il va toucher peut-être à trois pays, puis donc les Touaregs sont pas juste au Mali, ils se promènent, j'imagine, ils vont croiser d'autres frontières, puis la même chose pour d'autres communautés. Donc ça, c'est une réalité que j'imagine que toi, tu t'as bien pu constater sur le terrain que les divisions politiques, on va dire, sont très artificielles.
Oui, tout à fait. Parce que, justement, les Touaregs que j'ai rencontrés au Mali, ils voyageaient beaucoup. D'ailleurs, peut-être une anecdote, lorsque je suis allé pour faire une recherche pour une pièce de théâtre qui était écrite par un Africain et qui était joué au Québec, j'ai rencontré ces gens-là et... Il est arrivé quelque chose que je considère amusant, mais en même temps très révélateur. C'est que je devais leur remettre justement des droits d'auteur. Parce que, après que je les ai rencontrés, moi, je leur avais dit au groupe Touareg que je leur avais donné une somme, bon, assez modeste, parce que dans le théâtre, on n'a pas de gros budget. Dans le monde du théâtre, on n'a pas d'énormes budgets. Mais j'ai dit, je vais revenir et aussi, vous allez voir, en plus des droits d'auteur. Ils n'ont rien dit sur le coup. Et lorsque je suis retourné, pour faire une histoire courte, je finis par les retrouver, mes amis Touareg, et là, je donne un montant, le montant des droits d'auteur qu'on leur devait, parce que l'essentiel de la pièce de théâtre, c'était des enregistrements que j'avais faits à partir d'eux, j'avais pris de manière intégrale, des fois que j'avais arrangé un petit peu, mais la majorité c'était de manière intégrale. Et je me rappelle toujours ce que m'a répondu, parce que dans un français, là... Il a fallu que le traducteur puisse m'aider, mais j'avais compris, puis le traducteur m'avait bien compris, parce que leur langue, c'est le tamashek. Mm-hmm. Il m'a bien dit, Abdoulaye, puis il m'avait dit, « Entre le soleil et le sable, il n'y a point de droit d'auteur. » Donc là, ça voulait dire qu'il ne savait pas quoi faire avec mon argent. Il ne savait pas du tout. Donc, finalement, je lui ai dit, écoute, c'est un cadeau de ma part à la famille. Puis bon, on s'est serré dans les bras. Puis... ça, mais il faut toujours me rappeler ça. Hein? Entre le soleil et le sable, il n'y a point de droit d'auteur. Ça en dit long sur les réalités sociales d'un groupe à l'autre.
Donc, les Touaregs, c'est ce peuple qui se met des bandeaux, qui se protègent du soleil constamment.
Oui.
Est-ce que c'est eux qui ont la peau bleue? À cause du... parce que ça déteint le tissu ou si c'est un autre peuple puis que je suis mêlé?
On les appelle les hommes bleus du désert, effectivement. Okay. C'est une bonne... Mais pas parce qu'ils sont pas plus bleus que toi et moi.
Ben non. OK.
Non, ils n'ont pas de rapport avec les schtroumpfs. En tout cas, je les ai pas...
Mais je pensais que ça avait rapport avec le tissu puis tout là c'est bon.
C'est possible parce que, bon, là-dessus, je t'avoue que ça dépasse mon savoir. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, on les appelait les hommes bleus. C'est une petite recherche qu'on pourra faire éventuellement. Oui,
mais je ferai un lien, j'enverrai un lien, je mettrai un lien YouTube, là, probablement.
Mais il y avait plusieurs de des musiciens qui avaient une tâche bleue, donc peut-être que tu as raison d'évoquer ça.
En tout cas, je sens que j'avais vu ça quelque part, mais on approfondira. Mais ceci d'accord. Dit, donc, c'est des musiciens que tu avais enregistrés. Alors, quel genre, c'est quoi les instruments, c'était quel genre de musique, puis pourquoi ça s'arrimait avec la pièce de théâtre pour laquelle tu travaillais?
Ben parce que c'est une pièce qui se passait chez les Touaregs, qui avait été créée par un auteur malien. Mm-hmm. Un intellectuel, quelqu'un qui avait une formation universitaire, donc un écrivain. Et la pièce, ça s'appelait Lysis. Non, ça, c'est pas ça. Ça s'appelait Targia. Et c'était l'histoire d'un couple là, de Touareg, justement, qui se débattent à travers les réalités guerrières, les tensions qui se passent avec les Touareg, là, avec les différents pays, parce qu'ils appartiennent à personne, ils ont rejeté tout le monde. Hein.
Ah ben oui.
Vu qu'ils sont dans le désert puis qu'ils sont nomades, bon...
Une sorte de Rhum africain, quoi.
Exactement. Donc, Moussa Diagana, l'auteur, avait mis cette pièce de théâtre-là, l'avait vraiment assise dans la réalité et dans le contexte socio-culturel et de Touareg. Donc, ça me prenait de musique Touareg. Mm-hmm. Pour revenir à ta question, les instruments principaux, il y a les voix, évidemment. À la percussion, il y a le tendé. Un tendé qui est un instrument assez intéressant parce que c'est un multi-usage. On lui met une peau de chameau dessus pour jouer du tambour, mais lorsqu'on enlève la peau de chameau, ça devient un plat dans lequel tu mets les aliments.
Ah, OK. Ben, c'est ça, parce qu'il voyage, donc il faut qu'il puisse concentrer puis avoir le moins d'éléments possible à transporter à chaque fois qu'il bouge.
C'est ça, ils n'ont pas une valise d'instruments de musique puis une valise d'ustensiles. Ils ont fait un mélange entre les deux. Un autre instrument qui joue, c'est un luth qui s'appelle le terendent. D'ailleurs, Abdoulaye, lorsque je lui ai remis les sous pour les droits d'auteur qui n'existent pas entre le soleil et le sable, ben il m'a donné son terendent.
Okay,
je l'ai ici. Et puis, c'est un luth qui est plat, qui n'est pas trop gros et c'est un monocorde. Et puis, il arrive à faire des choses incroyables avec ça. Juste une corde, c'est incroyable. Puis, il y en a un autre, une espèce de violon qui s'appelle Hamzad. Ça aussi, on m'a l'a donné. Donc, j'ai ramené des instruments, ces originaux là, d'Afrique.
D'ailleurs, quand on va chez toi, là, on voit y a plusieurs instruments accrochés au mur, en tout cas qui sont bien mis en évidence. Puis on voit bien que c'est un hommage, en fait, à tout ce que tu as, à tous les gens que tu as rencontrés.
C'est porteur de souvenirs, mais en même temps, c'est porteur de culture. C'est un grand respect. C'est carrément des objets sacrés chez moi.
Super. Donc, outre l'Afrique, parce que bon, on pourrait en parler évidemment, consacrer une émission complète là-dessus, mais j'aimerais ça qu'on ait une espèce de survol un peu de ce que tu as fait. Un autre pays dont tu me parles souvent, Gérald, c'est l'Inde.
Oui.
Puis un des un des aspects dont tu m'as fait un élément que tu soulignes souvent, c'est celui des différentes Indes, dans le sens que, évidemment, le Sud et le Nord, c'est pas pareil, puis etc. Puis j'aimerais que tu me parles peut-être de leur relation avec la musique, puis ce que tu as vu là-bas.
OK. Ben, la musique indienne, elle est construite pour manifester l'ordre de l'univers. Et l'ordre de l'univers, c'est relatif à bon, une cosmogonie. Nous, on a une cosmogonie qui est racontée dans un récit. C'est Dieu qui a créé l'homme à partir de la... qui a créé l'homme après ça... avec un souffle, je crois, et la femme, il a pris sa côte, je ne sais pas laquelle. En tout cas, excusez pour...
Probablement une côte flottante.
Oui, c'est pas des spirits, en tout cas. Donc, on a notre récit mythique. Bon, à un moment donné, il y a un serpent qui arrive dans l'histoire et tout ça. Bon, c'est de la mythologie. Mais la mythologie indienne, c'est que le monde est créé à partir d'une petite vibration qu'on appelle le nada. La moindre, la plus petite, la plus faible des vibrations que tu peux imaginer, ben c'est ça qui a entraîné tout le reste. Ce qui a quand même, sur le plan métaphorique, une certaine valeur scientifique. D'ailleurs, c'est pas étonnant que lorsqu'on va au CERN, il y a une grande statue de Shiva. Il y a des Indiens qui travaillent au CERN, mais le CERN, étant donné que la moindre vibration, donc on peut en faire une équation avec de l'énergie, la moindre énergie basique. Donc, c'est le symbole du CERN. Le CERN qui joue avec des micro-particules qui se frappent et qui créent des énergies très difficiles à observer sans des gigantesques microscopes, là.
Accélérateurs, c'est ça,
les accélérateurs, ça, effectivement, ouais. Autour c'est quelle ville en Suisse, donc,
non, je ne sais plus laquelle, mais en fait, pas juste la Suisse, ça touche à la France aussi. C'est immense, ouais. Ça, c'est des kilomètres de long, c'est un grand cylindre.
Je pense qu'il y a 29 kilomètres et puis que c'est pas Lausanne, c'est peut-être Genève. En tout cas, je me rappelle pas de l'endroit exact, mais c'est un grand tube, si on peut dire, géant, là. De 29-30 kilomètres. J'ai d'ailleurs pu rencontrer quelqu'un qui y travaillait, là, par accident, là, une coïncidence, un ami d'un ami, puis je savais pas qu'il travaillait là, il était chez moi, il est venu à souper chez moi, puis à un moment donné, il me racontait ce qu'il faisait, c'était assez impressionnant.
OK, donc, ce lien-là avec la science et tout, donc l'Inde, et puis la micro-vibration, disons, c'est le cœur de de leur croyance. Quoi,
et ça porte un nom, ça s'appelle le nada. Donc, il n'est pas étonnant que si on écoute attentivement la musique de l'Inde, ça, tout le monde peut en faire l'exercice, il y a toujours une note de base qui soutient tout le reste, sur laquelle cette note-là, on improvise dessus. Mm-hmm. Donc, un peu comme le hum, l'homme, on le fait vocalement. Hum. Donc, ça, c'est une métaphore de la vibration qui a créé le monde, tout ça. C'est un monde vibrant, la musique de l'Inde. Même les instruments à percussion sont créés pour vibrer. Tous les instruments, que ce soit le tampura, c'est un instrument spécialisé dans tous les ensembles traditionnels indiens qui sert essentiellement à émettre une vibration de fond.
Qu'on entend toujours en fond, là, puis ça commence toujours avec ça. Là.
C'est ça. Et ça change pas, ça module pas, c'est solide. Exactement. Donc, on improvise là-dessus. Donc, ça, c'est un des éléments que j'ai trouvé vraiment fabuleux, parce que c'est une métaphore de la cosmogonie de l'Inde qu'on peut entendre, qui est reproduite à chaque fois qu'il y a un concert.
Puis c'est intéressant aussi, on parle de musique classique indienne, mais je pense qu'on en avait déjà parlé, mais il y a cette idée-là d'explorer toujours aussi les ragas, donc les espèces de gammes, on va dire ça comme ça, pour appliquer, faire une espèce de parallèle avec le monde occidental, mais puis à chaque fois qu'ils commencent, mais il y a une espèce d'étape où ils vont explorer pendant des longues minutes, là, ça peut être 20 minutes, qu'ils vont explorer.
Ah, tu peux dire des heures.
Oui, des OK, arts. Même. Mmh. Donc, la gamme ou les ragas qui ont choisi pour diverses raisons et qui ont des significations aussi. Ça c'est intéressant. Les ragas qui ont des significations avec soit des moments de la journée ou soit des états d'esprit. Il y en a même où on ne peut pas l'associer ou on essaie de pas se mettre en lien avec trop d'émotions, d'autres. Donc, c'est très intéressant, ce truc-là. Et là, pendant des longues minutes, ils vont explorer chacune des notes, mais toujours à partir de la note centrale là, qui est émise par le tempura. Puis là, ils vont aller à la première note, puis ils vont y aller plusieurs fois, puis d'une différente façon. Ensuite, ils vont revenir. Ensuite, ils vont aller peut-être à la deuxième. Puis là, en fait, en plus, le raga, il est construit différemment si tu montes ou si tu descends. Mais ça dépend évidemment des ragas, puis ça dépend. Il y en a qui ont plusieurs notes, qui n'ont même pas le même nombre de notes, etc. Donc, c'est vraiment complexe. Et encore une fois, toujours rattaché à ce que tu nous expliques, c'est-à-dire le lien avec leur vision. C'est très spirituel, en fait, comme musique, parce que c'est toujours lié à la cosmogonie qu'ils ont construite, dans le fond.
Et tu as évoqué aussi un aspect, l'aspect sémantique, là. Ce sont des ambiances, hein, puis on les met sur des peintures, d'ailleurs, ces ambiances-là. J'en ai ramené de l'Inde. On appelle le rasa, l'émotion, là, l'ambiance qui vient. Et
tu veux dire qu'il est rattaché à chaque raga, tu parles?
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Tu vas pas faire un raga n'importe comment par rapport à l'émotion que tu veux transmettre. Et puis, comme tu as mentionné aussi, les émotions du matin, les émotions du jour, les émotions de nuit. Donc, les ragas, ils sont divisés selon ces grandes catégories-là, mais aussi après ça, avec des éléments plus émotionnels comme la colère, la joie, tout ça. Donc, quand j'ai assisté, à un moment donné, je suis allé dans un concert. En fait, c'est un festival qu'il y avait à Mumbai, en Inde. Ça durait une semaine. Et puis, bon, on avait la crème de musiciens traditionnels indiens qui passaient des heures et des heures de musique là, pendant toute la semaine. Et puis, j'avais une spécialiste avec moi et puis je lui demandais, bon, c'est quoi le rasa, c'est quoi l'émotion autour de cette manifestation-là. Puis là, elle pouvait dire, oui, c'est ça l'émotion, mais il n'est pas aussi pur, il y a quelque chose, je préfère tel musicien. Donc là, on entrait dans une spécialité qui carrément nous dépasse parce que de pouvoir rendre bien une émotion particulière à travers un raga, ben nous, ça sonne tout pareil, les ragas. Hein? Nous, on utilise essentiellement sur le plan sémantique deux grosses gammes. La gamme majeure pour lorsque Indiana Jones a sauvé sa princesse et la gamme mineure lorsque, bon, ben ça va bien mal dans la vie. Là.
Oui, bon. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce qu'on a quand même plusieurs modes. En fait, c'est ça, oui, tu as raison.
Oui,
bon,
mais les principaux, là. Mais les principaux, on ne peut pas aller dans les
non, mais tu as raison parce qu'on a ces gammes-là. Puis à partir de ces gammes-là, on a construit des modes, disons.
Exactement.
Donc, oui,
mais au niveau émotionnel, je veux dire, la gamme, mettons qu'on parle phrygienne, ben, ce qu'on va retenir dans la gamme phrygienne, c'est son aspect mineur. Donc, on va tout de suite la classer dans les émotions négatives.
Oui, en fait, ça, puis on va lui donner une connotation orientale aussi à cause du demi-ton au début.
Effectivement.
C'est une gamme un peu orientale, mais bon.
Mais dans nos émotions, là, tu parles de quelque chose d'un peu plus spécialisé au niveau de la perception.
Bien sûr.
Mais essentiellement, la tierce mineure va être beaucoup plus parlante. Et on va, comme la tierce majeure est beaucoup plus parlante, en tout cas, on peut dire dans l'espace sémantique.
Oui, puis dans la musique occidentale en général. Non, je suis bien d'accord avec toi, mais peu importe, même si c'est développé quand même, la musique tonale, c'est certainement pas, en tout cas, très peu en lien avec une cosmogonie. En tout cas, on pourrait faire le lien comme analyste, mais c'est pas dans ce sens-là qu'elle est utilisée quand tu fais soit du rock, soit du blues, soit du classique, soit de la musique contemporaine. Alors qu'en Inde, visiblement, c'est toujours lié à ça, en tout cas, au moins dans la musique classique.
Oui, mais il existe une musique populaire, hein, Bollywood, et puis, avec l'intégration, j'ai des amis qui font du jazz, qui ont étudié la guitare à MIT, puis quand je vais à Mumbai, c'est chez eux que je me retrouve, et puis bon, ils font du jazz, du rock, mais c'est intéressant parce que c'est un jazz, tout mélangé aussi avec la musique de l'Inde qu'ils font, c'est assez fabuleux.
D'ailleurs, c'était ça ma prochaine question, c'est que là, on a beaucoup parlé de musique classique indienne. Là, tu me parles de Bombay, ça veut dire que tant au sud qu'au nord, j'imagine, et même s'il y a des différences, il y a quand même une espèce de langage commun dans le classique, mais il y a toutes sortes d'autres instruments. Là. Il n'y a pas juste, tu sais, puis il y a d'autres ensembles, il y a la musique vocale, j'imagine, plus folklorique, on pourrait dire, ou comment ça se présente pour toi, comment ça s'est présenté pour toi, cette diversité musicale en Inde?
C'est intéressant parce que, bon, lorsque tu parles en indien, même Ravi Shankar, il disait ça en entrevue, il dit, bon, ben, les catégories classiques, là, ça vient de vous autres, ça vient pas de nous autres.
C'est bon.
Nous, et donc, on a projeté, si on peut dire, nos structures sur leur structure. Donc, dans leur structure, bon, la musique, ils ont comme nous des musiques de divertissement, des musiques reliées à la prière, donc, ils ont des éléments qui sont fondamentalement, là, ce qu'on voit dans la base, qui ont des fonctions sociales semblables, similaires aux nôtres, donc fonctions religieuses, fonctions de divertissement, bon, relaxation, bon, soit tout dépendant de l'utilisation, quoi. Ils ont ça. Mm-hmm. Ils ont différents types d'instruments. Il y a aussi, évidemment, les classes sociales qui ont structuré beaucoup l'Inde. Donc, évidemment, les classes plus élevées écoutaient les musiques davantage comme on les connaît, comme nous, on appelait les musiques classiques. Il y a eu, autrement dit, il y a eu le même clivage entre les musiques populaires, qui a toujours été longtemps considérées comme inférieures dans notre propre société, dans notre propre culture occidentale. La musique populaire, moi, je pense que c'est une des premières définitions à la blague qu'un ethnomusicologue m'avait fait sur la musique populaire. Il disait que c'est la poubelle de la musique occidentale.
Oh oui, ça ne me donne pas.
Donc, tu vois, il y a ce même clivage-là qui existe aussi. Là.
En fait, qui reflète le clivage des castes, quoi.
Des classes sociales, parce que, bon, nous, on regarde les castes comme étant une hyper classe sociale, mais on a eu nos castes. Ce ne sont que des mots, c'est parce qu'on appelait ça caste pour l'Inde, que ça change au niveau des élites qui s'imposent davantage par rapport à la classe plus dominée, si on peut dire. Mm-hmm. Et ça, les sociologues l'ont très bien identifié.
Oui, et puis surtout, bon, les intouchables jusqu'aux grandes. Voilà. Est-ce qu'ils ont un nom, la caste plus la plus élevée, disons, de la hiérarchie, entre guillemets? Est-ce qu'il y a un nom, des noms comme ça pour... moi, je connais le mot intouchable, mais c'est à peu près tout.
Mais c'est les castes supérieures, en fait. La caste la plus élevée, c'est la caste des prêtres.
Okay.
Ceux qui vont nous connecter, si on peut dire, directement avec la spiritualité.
Mm-hmm.
Et puis, bon, c'est les castes plus riches et tout ça. Donc, les noms vont être différents d'une région à l'autre. Par exemple, dans certaines régions de l'Inde, la caste va porter le nom de cette région-là, ou tu comprends?
Mm-hmm.
Okay. La caste plus élevée, là.
Puis, puis la musique, j'imagine, a donc des rapports comme ça. J'imagine que la musique indienne, la musique qu'on appelle, nous, classique, comme tu disais tantôt, tu l'évoquais, c'est plus pour les castes élevées, mais qu'il y a d'autres types de musique chez les intouchables ou chez d'autres types de castes.
Exactement. Il y a quelque chose, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que la culture indienne en général, je dirais, populaire, va être moins scrupuleuse à mélanger les choses.
Mm-hmm.
Les mélanges là, qu'on peut retrouver en Inde sont incroyables parce que c'est un peuple où l'inclusion de tout ce qui existe est une valeur.
Mm-hmm.
Une des choses qui m'avait frappé quand j'étais en Inde, c'est qu'il y avait sur un grand mur des peintures faites là, par des artistes et on voyait Bouddha, Jésus, Krishna et Mohammed sur la même...
Mahomet, tu veux dire.
Mahomet, oui. Oui, c'est vrai. Parce que j'ai des amis qui s'appellent...
Oui, Mohammed. Ben oui,
oui Mohammed. Mahomet. Donc, ils les avaient réunis ensemble. C'est pas quelque chose qu'on est essentiellement porté à faire. Nous, lorsqu'on parle de religion et de mouvement religieux, on est plus dans une approche de diviser les choses.
Oui.
Même on divise dans la division. Hein. Il y a des centaines de types. Ouais, voilà. C'est puis ça. Même chez les protestants, il va y avoir des centaines de types de protestants qui vont se chicaner sur un mot de la Bible en particulier. Mm-hmm. Alors que l'esprit hindouiste, indien, est plus de « OK, il y en a un Dieu, là, mais c'est toute une gang qui font à peu près la même chose, puis c'est tous des chummies, puis c'est tout ensemble, ça. Ça se divise pas, ces choses-là, ça se réunit. » Donc, ce même concept-là existe aussi pour la musique. Donc, dans les musiques modernes, il y a des mélanges incroyables là, qui se font et qui sont vraiment intéressants. Ils ont moins de scrupules, si on m'accroche. Comment je pourrais dire ça, à faire de syncrétisme, à faire des mélanges, une espèce de laboratoire de métissage en particulier, qui est une valeur, alors que pour nous, ça a pris un certain temps avant que ça devienne quelque chose d'intéressant.
C'est fascinant tout ça. En fait, ce que je vois, là, évidemment, tu as visité d'autres pays, d'autres, tu sais, tu es allé en Chine, tu es allé bon, un peu partout, mais... ce qui m'a marqué dans tes interventions que tu fais, soit en classe, soit quand on t'invite, soit quand on parle ensemble, c'est cette idée-là de motivation profonde, en fait, qui unit la musique qui est jouée dans différentes communautés, peu importe les pays, peu importe les cultures, les religions. Et justement, ces croyances-là, donc, comment tu vois ça fondamentalement? Est-ce que tu as trouvé ça relativement, est-ce que c'est relativement, je vais employer un mot que tu aimes beaucoup comme moi, le mot universel, est-ce que tu as remarqué quand même que dans pas mal toutes les cultures que t'as observées, qu'il y avait ce lien-là fondamental?
Oui, en fait, la distinction, peut-être je vais donner un exemple qui, bon, j'ai jamais d'exemple parfait, mais le fait de parler, c'est universel, mais le français n'est pas universel.
Oui, voilà, ça, je suis bien d'accord.
Donc, c'est un peu comme ça pour la musique, c'est-à-dire que, bon, à partir du moment où on entre dans la sémantique, dans l'organisation, là, on se retrouve avec des choses très différentes au niveau des valeurs. Et même contradictoire. Hein. Lorsque j'entendais les moines bouddhistes là à Dharamsala, ben j'ai enregistré d'ailleurs, mais j'aurais pu mettre ces mantras carrément dans un film d'horreur parce qu'il y avait même pas de mélodie, c'était très grave en plus. J'avais l'impression que c'était un borborygme qui s'exprimait à la société Parfait pour un film d'horreur, mais...
Film d'horreur occidental.
Ils priaient. Les autres, ils servaient. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Alors qu'eux, c'était... Ils embrassaient la vibration, le moment présent dans une prière qui était répétée, qui était des mantras.
Donc, ce que tu me dis, c'est que, bon, non seulement la musique n'est pas un langage universel, ce qui est universel, c'est sa présence dans toutes les cultures, en tout cas sous une forme ou une autre.
Comme le langage parlé.
Oui. Puis, c'est la même chose avec les rapports qu'on entretient avec cette musique-là. Donc, elles sont de types différents. Il y a partout des liens entre, disons, le social, le culturel, le spirituel, dans les différentes cultures que tu as vues. Mais, évidemment, ces rapports-là sont de nature différente selon les cultures aussi.
Et oui, il y a des cultures dans les cultures. Et de ça aussi, on retrouve sous d'autres formes tous les mêmes comportements, les mêmes phénomènes que nous avons. Comme par exemple, dans le monde rural de l'époque de mes parents, lorsqu'est arrivé le rock'n'roll, c'était choquant. C'est arrivé un peu plus tard que le phénomène il suit, si on peut dire, ce qui s'est passé, par exemple, en Angleterre ou ce qui s'est passé aux États-Unis, parce qu'ils n'ont pas accès tout de suite à ça. Et ce qui est valorisé, c'est le folklore, là, les rigodons, tout ça. Et donc, ces phénomènes ruraux, grandes villes, grandes métropolitaines, grandes métropoles plutôt, il y a ces mêmes phénomènes-là là-bas. Donc, ce qui va circuler, par exemple, comme type de musique folklorique dans certaines régions, qui est probablement d'origine similaire, mais que le violon va être joué un petit peu différemment, le réel va être réapproprié, il va en faire quelque chose de particulier, il va avoir peut-être plus d'éléments irlandais qu'écossais, etc. Donc, tout ça, ça existe aussi en Inde, mais en fait, on n'est pas en mesure de l'identifier de façon précise. Ça prend des spécialistes et des spécialistes de la musique de l'Inde.
Oui, bien sûr. Non, ça, c'est...
Donc, les phénomènes sont les mêmes. La diversité est une forme de grand laboratoire de variation sur un thème, on peut dire.
Wow. Bon, ça, c'est, je trouve que ça fait une belle fin pour aujourd'hui, en tout cas, cette idée-là de variation sur un énorme thème. Mais on n'en a pas fini, Gérald. Je vais vouloir qu'on en reparle dans d'autres épisodes. En fait, que tu m'en parles aussi. Tu me parles de musique, par exemple, dans les cultures plus musulmanes, dans les cultures bouddhistes, donc plus asiatiques, même si en Asie, il y a toutes sortes de choses. Je veux dire,
Calédonie, j'ai visité la Calédonie, l'Australie, les Caraïbes, plusieurs îles des Caraïbes, l'Équateur, et à chaque fois,
l'Amérique du Sud,
c'est un monde, c'est un nouveau monde qui apparaît.
Mais je suis certain que, comme moi, les auditeurs ont bien hâte de t'entendre à nouveau. La semaine prochaine, on va alterner un peu. Ce sera un petit peu mon tour. Je parlerai de trucs plus par rapport à mes propres recherches un peu.
Qui est absolument intéressante. Là, c'est-à-dire, tu as eu la chance d'étudier avec des musicologues britanniques. Tu es allé en Angleterre. Et donc, tu as une vision très profonde de ce qui s'est passé avec le développement de la musique populaire et... t'en as long à dire là-dessus et j'ai bien hâte de t'entendre aussi.
Ouais, j'allais dire j'allais dire plutôt l'inverse. Ça va être une pause un peu plus plate pour nos auditeurs jusqu'à ce que tu reviennes. Mais t'es bien gentil. Merci beaucoup, Gérald, pour partager ça. Puis moi, j'ai bien hâte qu'on reparle en fait des autres pays que tu as visités, puis des autres cultures, puis de tes découvertes musicales.
Moi, j'ai hâte de t'entendre sur les Beatles, sur ton expérience aussi comme musicien créateur des années 80. Et la liste est longue aussi. On va avoir de beaux échanges. Et je pense qu'il y a une belle complémentarité, là. Moi, avec mes voyages et toi, avec l'approfondissement de la musique populaire qu'on dit occidentale, avec toute ta capacité d'analyse et tout ce que tu as pu nous trouver, là, c'est génial.
C'est bien gentil. On se revoit la semaine. On se revoit, ou en tout cas, on se reparle la semaine prochaine, Gérald.
Super.
Bye-bye.
Bye.